Vous êtes jeune, vous êtes curieux. Nous avons de l'énergie à partager ensemble tous les jours sur Radio Okapi. De 15 à 17 heures, c'est Total Énergie. 2 heures de musique, Actu People, Emploi, Environnement. Nous ouvrons le dictionnaire dans J'aimerais savoir. Nous vous donnons aussi la parole dans Regard d'avenir, Point de vue et Pensée de jeunes. Chaque jour, jouez avec une question de connaissance générale. Pour mettre le feu de 15 heures à 17 heures sur Radio Okapi, Total Énergie, c'est l'énergie totale.
Dès le début de l'année, vous constatez que votre enfant n'est pas assez bon à l'école. Il a de mauvaises notes et ne parvient pas à suivre les cours correctement. Il peut être faible en mathématiques, en français ou autre. Même si vous n'avez pas le temps pour l'aider à faire ses devoirs, vous pouvez quand même lui choisir un répétiteur. Alors, voici, nous aurons quelques conseils à suivre pour choisir le répétiteur. Quels sont les avantages et les désavantages? Monsieur Odon Moulanda, psychologue et notre invité. Alors, dites-nous, est-il important d'avoir un répétiteur pour son enfant qui est faible à l'école?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, je tiens sincèrement à remercier tous les auditeurs de la Radio Okapi qui marquent leur confiance à nos interventions. Et c'est quand même un motif de fierté pour nous de pouvoir les remercier et les encourager dans tout ce que nous faisons. Mm-hmm. Alors, pour revenir à notre question, je pense que nous sommes au début de l'année. Il y a un programme qui est tracé au niveau de l'enseignement. L'enfant qui commence ses enseignements est soumis à ce programme. Les enseignants qui vont recevoir ces enfants doivent suivre le programme qui trace les chronogrammes des activités prévues, oui, les périodes déjà conçues et tout ce qu'ils auront à faire comme activité d'apprentissage devront se conformer à ce programme. Oui. Alors, faut-il déjà dès le début avoir un répétiteur? Nous pouvons dire oui et non.
Peut-être parce que le parent, le papa ou la maman n'a pas le temps de faire les devoirs, d'aider l'enfant, de le soutenir, d'apporter un soutien scolaire à domicile.
Bon. Oui, ça c'est vrai. Mais à quel moment faut-il le faire? Parce que les enfants ont eu toute une période de vacances. C'était une période non pas seulement pour des kermesses, non pas seulement pour des activités récréatives, mais il y a eu des moments où si on peut se voir, on connaît du moins les capacités de nos enfants. On peut se dire, bon, l'enfant était très fort dans telle branche ou telle autre branche, et faible dans telle autre. Mais c'est pendant les vacances qu'il fallait voir comment encadrer petit à petit les enfants. Oui. Mais maintenant que nous rentrons, il faut d'abord les soumettre aux enseignements. Ce n'est pas dès le début de l'année qu'on doit déjà commencer à voir, bon, vous avez un répétiteur déjà à la maison. L'enfant est soumis à de nouveaux chapitres qu'il doit voir, mmh, et de l'autre côté, le répétiteur lui donne une autre matière. Donc, nous risquons de vivre dès le départ un enseignement à double vitesse. Mmh. C'est ainsi que, pour plus de prudence, c'est un mauvais départ. Donc, pour plus de précision, oui, il faudrait d'abord soumettre l'enfant à son apprentissage. Mmh. Et le répétiteur devra suivre le programme tel que placé au niveau de l'école et voir à quel niveau l'aider, par exemple, à résoudre des exercices soumis par le maître ou le professeur au niveau de l'école et voir ensuite comment l'aider à avancer plus. Mais il ne faudra pas que le répétiteur vienne, il est sur tel chapitre, alors qu'au niveau de l'école, on est sur un autre chapitre. Là, c'est aussi un problème.
Donc, le répétiteur doit suivre ce qu'on donne à l'école et le répéter à l'enfant.
Effectivement. Mm-hmm. Et
oui, allez-y.
Oui, alors, au niveau de l'école, parce que nous nous disons, il faudra pas qu'il y ait cassure entre l'école et la famille. Il faut tracer un pont entre les deux milieux. Mmh. C'est le parent qui vient chaque fois au niveau de l'école, qui suit le rythme du travail de l'enfant, qui peut dire au directeur, au préfet, ou à tel, pour voir si ce résultat-là produit par l'enfant ne se reflète pas au niveau de tous les autres enfants.
Donc, il faut attendre peut-être après la première période, après les exercices, les interrogations, on voit la cote, combien votre enfant a obtenu, il a échoué, à ce moment-là, on peut se recourir à un répétiteur.
Oui, moi je pense que c'est être pratique, parce qu'après tout, l'enseignant est là pour inquiéter les savoirs. Et aujourd'hui, vous devez savoir que la pédagogie a changé d'approche. Ce n'est pas le maître qui vient seulement inculquer à l'enfant tout ce qu'il faut faire. Le maître, comme l'enseignant, devient un facilitateur. Donc, il faut aider l'enfant d'abord à mieux comprendre ce qu'il doit avoir comme matière et voir aussi comment les résoudre en termes de compétences. Ça, c'est tout à fait normal que nous puissions développer ces compétences au niveau de nos enfants. Mais recourir tout simplement aux répétiteurs avant que l'enseignement formel au niveau de l'école n'ait pas encore commencé son programme, c'est quand même trop risqué.
C'est trop risqué, mais actuellement, il y a certains maîtres ou enseignants qui proposent, et même aux parents, dès le début, voilà, votre enfant avait des faiblesses l'année passée, donc il faut déjà, on est là, on est disposé à venir, voilà, donc on peut déjà anticiper, ça va l'aider à être à la page, donc ils font des propositions comme ça aux parents, et puis on va négocier sur le montant.
C'est une très bonne chose, nous sommes encore au niveau superficiel, mais quand nous allons descendre au niveau des inconvénients, on va voir. Un enseignant qui a pu encadrer son élève pendant autant, disons, de mois, et pendant l'année, il sait que l'enfant était faible. Il ne veut pas voir quels sont les palliatifs qu'il faudra faire pour résoudre le problème d'une adaptation de cet enfant par rapport à la leçon. Il attend que l'enfant puisse terminer d'abord la fin de l'année. Et maintenant, pendant les vacances, il va soumettre la question aux parents. Ça, c'est un motif plus économique que pédagogique.
Donc, c'est pour avoir un peu d'argent.
Oui, ça, c'est sûr. Il ne faut pas qu'on se les cache.
C'est une pratique qui s'est développée, d'ailleurs, dans notre pays. C'est vrai que les enseignants ne sont pas bien payés, rémunérés, tout ça. Et certains cherchent des voies et moyens pour avoir un peu d'argent.
Oui, c'est pour les enseignants qui pensent qu'ils ont fait ceci, c'est une bonne chose. Mais maintenant, en termes d'effectifs, il faudra voir un peu la fréquence des parents qui peuvent agir de cette manière-là sur l'ensemble de la population. Combien sont-ils ces parents qui ont le moyen de pouvoir soutenir les préceptorats? Ça, c'est tout un problème. Nous devons voir le problème dans la globalité. Aider tout le monde, c'est-à-dire accorder les chances de réussite à tous les élèves et non pas sectoriser le problème pour qu'on en fasse maintenant un lobbying pour faire des affaires aussi. Ça, c'est tout un problème qu'il faudra noter.
Oui. Si on sait que généralement l'enfant est faible en mathématiques, hein, il accuse beaucoup de faiblesses, est-ce qu'on ne peut pas dès la rentrée lui trouver un répétiteur?
Évidemment, je l'ai dit qu'au début de l'année, on peut faire quelque chose de plus important. Cette faiblesse-là n'a pas été constatée au début de l'année. Vous avez vu qu'au début, lorsque l'enfant a commencé, pendant tout son cheminement, on arrive à la fin de l'année, qu'il réussisse ou pas, mais du moins il y a une faiblesse au niveau des mathématiques. On a eu tout le temps de pouvoir préparer l'enfant sur la matière-là. Et lorsque le répétiteur arrive maintenant au début de l'année, il va commencer sur quel chapitre? Le premier chapitre, c'est une bonne chose. Mais maintenant, moi j'insiste que ce qu'il doit faire doit se conformer au niveau du programme que donne l'enseignant. Sinon, cet enseignement à double vitesse risque même de toucher sur les psychismes de l'enfant. Et il y a des conséquences qui peuvent en découler.
Est-ce que le répétiteur à la maison doit être, c'est le même enseignant qui enseigne l'enfant à l'école ou un autre? Est-ce que les deux doivent être en contact souvent?
Bon, en fait, c'est là aussi un autre problème. Lorsqu'un enseignant, l'enseignant titulaire d'une classe, il est censé administrer son enseignement par rapport au programme, au niveau de son école. Mais lorsqu'il se donne déjà dans ce précepteur-là, il y a risque qu'il ne puisse pas faire en sorte qu'il termine son programme. Il risque même de boycotter certaines leçons tout en sachant que je vais le faire ailleurs. Et là, c'est un danger. Donc, l'idéal, si du moins il y a des parents qui tiennent à ce répétiteur, l'idéal serait qu'il y ait un enseignant autre. C'est l'enseignant de l'élève. Oui, parce qu'à ce moment-là, ça va nous permettre d'évaluer aussi l'action du premier enseignant. Celui qui arrive, il se voit que mon collègue qui est à l'école a enseigné sur telle matière, il peut aider maintenant l'enfant à comprendre ce que l'autre a enseigné. Mm-hmm. Ça, c'est tout à fait évident. Mais quand c'est la même personne, vraiment, il y a du sentiment dans ce qui se fait.
Des questions, des préoccupations, composez le 081-890-63-94.
C'est parce que Radio Kapuin et le Congo que vous êtes concernés par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur Internet, radiokapuin.net.
Est-il important d'avoir un répétiteur pour votre enfant dès le début de l'année? Quels sont les avantages et les désavantages? André Moussimbo, de l'appel de Kingo Manima, bonjour. André, veuillez fermer votre radio, s'il vous plaît, ou réduire sensiblement le volume. Vous allez écouter en partie de votre téléphone, André. Voilà, c'est fait. Merci, André. Allez-y, quelle est votre question?
Non, je voudrais que tu te donnes des arguments à mon prédécesseur qui est venu d'expliquer toutes ces idées concernant à peu près l'élève qui participe par exemple à la cantine qui est à l'école.
Oui.
Oui. Quand par exemple il y a un élève qui est faible par exemple en mathématiques,
oui.
Le parent aussi doit nécessairement chercher quelqu'un pour l'encadrer après la sortie de l'école. L'élève sort de la classe, il se repose un peu. Et il cherche l'encadreur qui peut le faire comprendre la mathématique et lui apprendre plus pour que l'élève soit, par exemple, mieux en mathématiques que les journalistes.
Donc, vous soutenez l'idée qu'il faut avoir un répétiteur dès la rentrée scolaire?
Oui, c'est ça. Il faut donner aussi, pour augmenter aussi la connaissance à travers l'autre, les répétiteurs à la maison. Vous comprenez, monsieur le journaliste?
Oui, merci, André. Odon Moulanda.
C'est une bonne chose. Mais lorsqu'il dit que l'enfant est déjà faible, pourquoi lui ne peut pas être en contact avec les professeurs au niveau de l'école?
Bon, il peut partir à l'école, mais il ne comprend pas directement. Il peut comprendre à travers les répétitions qui est les répétiteurs que je fais à la maison. Donc, comprenez, monsieur le journaliste, parce qu'il n'est pas en mesure de comprendre une fois, mais à travers la répétition que je fais à la maison. Il sera en mesure de justement de comprendre la mathématique. Et il sera apte à la mathématique, n'est-ce pas, monsieur le journaliste.
Merci, André Moussimbo de Kindou. Aristote Lungueri nous appelle de Béni au Nord Kivu. Bonjour, Aristote.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question?
Oui. Alors, j'ai des préoccupations.
Lesquelles?
Quels sont les enfants qui sont censés assister à cette question? Quelles sont les conditions pour recruter un répétiteur? Ce sont les parents. Ce sont les parents qui chercheront ce répétiteur ou l'enseignant lui-même pour ne pas avoir de confusion et de cours.
Merci, Aristote. Patrick Tonga de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Kapuin.
On vous écoute, Patrick.
Oui, étant étudiant, je suis étudiant en mathématiques, et puis j'assure aussi le professorat.
Oui.
Concernant le sujet du jour, je voudrais juste faire une suggestion. Je voudrais un peu parler de la situation familiale, qui est aussi important. On doit beaucoup tenir compte de la situation aussi familiale pour voir comment atteindre le point sur le professorat à la maison. Donc, quand je parle de situation de famille, on verra, par exemple, il y a de ces familles qui sont fermés ou très ouverts envers la société.
Oui.
Et là, je voudrais plus parler.
On vous écoute, Patrick.
Oui. Je voudrais plus dire que lorsqu'il y a rentré, concernant ce que le monsieur est en train de dire, oui, c'est vrai que ce n'est pas tellement nécessaire, mais moi, je pense que c'est nécessaire. Parce que il faudrait prendre un peu de temps, constater que l'enfant, ça ne doit pas, nous devons prendre un tuteur. Mais moi, par exemple, avec mon expérience, j'ai donné le cours à un enfant et j'ai constaté que l'enfant était intelligent en soi. Mais il y avait des problèmes en famille qui empêchaient l'enfant d'évoluer.
Oui.
C'est aussi ça un problème. Et en plus, je voudrais parler, dans certains cas, ce n'est pas tellement nécessaire, mais néanmoins, on ne peut pas empêcher l'enfant de voir une personne qui se connaît dans la matière. Par exemple, il y a des enfants qui sont doués, on ne peut pas empêcher l'enfant de voir les personnes pour un peu l'encadrer. Là, le tutorat n'est pas nécessaire. Mais c'est important, ça devient important dans le cas où, avec l'enfant, ça ne marche pas. Mais là, il faut aussi savoir quels sont les problèmes qui empêchent l'enfant de bien maîtriser la matière, de bien comprendre. Il y a des situations de la famille, comme moi, j'ai posé souvent des questions à mon élève. Qu'est-ce qui ne va pas? Apparemment, ça ne va pas. Vous constatez vraiment. Mais il y a des parents qui ne font que forcer l'enfant à apprendre. Et au moment où l'enfant en sort, a peut-être certains problèmes psychologiques ou des problèmes en société qui l'empêchent de vivre.
Merci Patrick Tonga, de Lubumbashi au Katanga. Monsieur Odon.
Oui, je suis très content et je ne fais que me réjouir de la réponse, de la préoccupation soulevée par l'auditeur de tout à l'heure. On sait comprendre que dans ce mécanisme d'apprentissage, le milieu joue un rôle aussi important. Je pense que lors d'une autre émission peut-être mieux élaborée, on pourrait voir l'influence du milieu dans le processus d'éducation. Ça, c'est très important.
Mm.
Donc, l'ami de Dissiro, le premier auditeur, doit comprendre que nous ne voulons pas prendre le préceptorat dans l'absolu, c'est-à-dire que c'est la solution ultime. Non, il y a des cas qui nécessitent nécessairement qu'on puisse recourir à un répétiteur. Mais à quel moment faut-il le faire? C'est là la grande question. Il ne faudra pas que d'emblée comme ça, vous vous dites, bon, j'ai 5 enfants, il faudra que je prenne 5 répétiteurs. Il faut laisser l'enfant s'exceller pendant quelques temps. Vous l'observez. En l'observant, vous pouvez maintenant voir quelles sont les aptitudes, quelles sont les faiblesses, quels sont les points forts qu'il faudra exploiter. Donc, c'est ça au moins le grand problème. Lorsque nous parlons de la famille, qui doit le faire? Mais c'est là où nous arriverons peut-être plus tard à dire quelles sont les conséquences que nous n'avons pas encore abordées jusque-là.
Mm-hmm.
Sur le plan économique, qui supporte cette activité de préceptorat? Ce sont les parents qui doivent mettre le moyen. Et lorsque le parent n'a pas ce moyen, il n'y a pas cet enseignant-là qui va accepter de venir faire le bénévolat. Donc, quelque part, il y a une raison économique aussi qui pousse les enseignants à accepter ce préceptorat pour essayer de suppléer peut-être aux autres difficultés qu'on a du moins de l'autre côté.
Voilà. Aristote de Béni vous pose cette question. Quelles sont les conditions pour recruter un répétiteur?
Évidemment, au niveau de la famille, il faudra disposer de moyens parce que vous devez vous entendre avec les répétiteurs pour dire bon, pendant le mois, on vous donnera autant et en fonction de temps, de nombre d'heures. À ce moment-là, l'enseignant qui accepte est obligé d'être là, il respecte son engagement et il sera en mesure maintenant de faire son travail comme il se doit. Donc, c'est plus un engagement que les parents et l'enseignant signent pour l'encadrement personnel de l'enfant.
Voilà, et Patrick de Lumbashi nous a dit que les problèmes sociaux, familiaux peuvent être aussi empêcher à l'enfant de bien évoluer à l'école. Hein. Surtout quand il y a des problèmes, trop de problèmes dans la famille, les disputes, divorce ou perte d'un parent, ça peut perturber l'enfant, le rendement de l'enfant à l'école.
Oui, ça c'est vraiment, ce n'est même pas à discuter. Comme ça, j'insiste là-dessus, monsieur le journaliste, j'aimerais qu'on aborde cette question-là.
Cette question prochainement.
C'est
important. Jacques Mouton nous appelle de Lubumbashi, Sylvain Mawamba est en Mbujimayi et Julien Mukungwe à Kamina. Vous voulez aussi participer, n'hésitez pas, appelez-nous au 081-890-6394. Jacques Mouton, bonjour. Jacques Mouton, bonjour.
Bonjour, je vous suis.
Vous êtes à Lubumbashi, nous parlons aujourd'hui de la question d'un répétiteur. Est-il important d'avoir un répétiteur pour son enfant? Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce thème?
Ah, merci. C'est vrai que bon, c'est indispensable d'avoir un répétiteur, ça c'est vrai. Mais il y a quelque chose que je voulais souligner. D'abord, je remercie l'invité qui est avec vous là, qui a un exposé brillant. Et ma première préoccupation, c'est par rapport aux vacances. Les vacances sont là pour que l'enfant puisse se reposer, mais quant à l'occuper pendant les vacances, quelles sont les mesures lui en tant que psychologue, qui puisse aider l'enfant à se reposer également, à se donner à la restitution. Et la deuxième préoccupation, c'est par rapport à l'arrangement des enseignants qui font que ils ne dispensent pas bien leurs cours, et ils forment en quelque sorte quelque chose qui leur permette de chaque fois se réorganiser en répétition pour gagner de l'argent, alors que les leçons sont mal dispensées. Et quelque part, vous verrez que surtout pour les familles non bien assises, les paiements des FIP, on renvoie beaucoup d'élèves, et c'est un arrangement à l'école pour que les mêmes enseignants puissent se regrouper en répétiteurs. C'est cela mes préoccupations, et ça inquiète les parents, surtout les parents démunis.
Merci Jacques Moutonde. Sylvain Mawamba de Mbujimayi, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour à notre invité et aussi à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre question, Sylvain?
Bon, ma préoccupation est de que notre invité puisse un peu nous dire réellement si le répétiteur comme tel de nos enfants peut-il avoir droit exactement de donner une matière particulière, parce que lorsqu'on parle des répétiteurs, c'est censé qu'ils le répètent à la volée, que l'enfant puisse revoir ces matières après les cours, lui seul à la maison, mais celui-là est sous sa direction, il les guide, il voit ce que, comment l'enfant s'y apprend et comment il résout les problèmes, peut-être les devoirs donnés à l'école. Et là où l'enfant ne s'en sort pas, bon, il lui demande non, ici il faut aller un peu comme ça, il faut aller un peu comme ça. Mais dire que le répétiteur peut donner une matière aussi à la rencontre de ce qui est vite à l'école, bon, c'est là où je suis un peu dans le flou, je ne comprends pas, parce que réellement le répétiteur peut donner une matière aussi différente de celle qui est vue ou en dehors du programme établi par l'école.
Merci. Merci Sylvain, bonne journée à Mbujimayi. Julien Mukungu et à Kamina au Katanga, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question, Julien?
J'ai seulement deux petites préoccupations. La première, moi, j'ai été ma fille, ne comprenais pas facilement la mathématique. Alors, j'ai cherché pour elle un répétiteur. On voit que je voulais juste chercher ce répétiteur, mais ma fille comptait déjà obtenir des zéros à l'école. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire. Alors que, dès que le répétiteur vient à nous, s'applique bien à l'école, je comptais toujours obtenir des zéros. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire.
Merci Julien. Alors Sylvain, vous avez la parole.
Merci beaucoup. D'abord, je salue mon frère Mouton de Lubumbashi. Je pense que ce qu'il a dit, c'est vraiment très très capital. Moi, si je parle de répétiteur, moi je voudrais voir que les gens ne puissent pas voir cela de manière absolue. C'est-à-dire que pour que l'enfant réussisse, il faudra nécessairement un répétiteur. Lorsque mon frère parle de vacances, mais je vais leur envoyer quelque chose. Vous avez des petits-enfants autour de vous. Je ne sais pas, essayez de voir ce que des petites filles ou des petits garçons de l'école primaire, qu'est-ce qu'ils font pendant les vacances? Vous pouvez le retrouver qu'il y a un maître qui s'improvise, une maîtresse, c'est pas si tout le monde l'a déjà vécu. Donc, ils se retrouvent là-bas, il y a un enseignant. Alors, il y a même des proclamations. C'est le premier de la classe. Et on applaudit. Donc, ça, il y a des moments où nous ne pouvons pas dire que pendant toute la période de vacances, pendant le deux mois, que les enfants doivent se mettre tout simplement au divertissement. Il faudra prévoir, mais si c'est quelques temps pour dire, quand je sais par exemple que ma fille était très faible en mathématiques, profiter de ces temps-là pour que la fille soit reconditionnée de telle manière qu'à la rentrée, qu'elle soit quand même en mesure de pouvoir refaire la note. Donc, la période de vacances est indispensable pour tout, mais nous ne disons pas qu'il faut arrêter nécessairement les activités intellectuelles. Donc, même si ce ne fait pas intense, mais disposer ne fût-ce que d'un petit temps pour arriver à aider
les enfants. Il y a déploré le fait que certains enseignants n'enseignent pas très bien les cours à l'école, tout ça, et ils vont proposer aux parents, voilà, on va passer à la maison pour répéter avec les enfants pour les besoins économiques.
Oui, c'est pour ça que moi j'ai refusé, en tout cas dans l'ensemble, que l'enseignant de mon élève, pardon, de mon enfant, parce que c'est son élève, c'est mon enfant, vient tout simplement me proposer cette préceptora. alors qu'il est censé respecter le programme au niveau de l'école.
Oui.
Donc, c'est là aussi un problème.
Alors, s'il donne un mouvement, il vous pose la question de savoir si le répétiteur peut donner une autre matière qui n'est pas dans le programme
en
de l'école.
En principe, le répétiteur doit aider l'enfant à comprendre les matières qui ont été données à l'école.
Quand il n'a pas le droit de donner autre chose.
Oui. Mais puisque nous sommes dans un monde planétaire, par exemple, maintenant, il y a d'autres informations qu'on peut prendre par-ci par-là. Le répétiteur, étant avec l'élève, peut l'aider aussi pour dire ce que vous avez vu en classe. Voici une autre information supplémentaire qui faudra faire comprendre à l'enfant. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'au début de l'année, le répétiteur vient avec son programme. Il commence premier chapitre. Ça se référait au chapitre de l'école.
Mmh.
Et c'est à ce moment-là que j'ai parlé de l'enseignement à double vitesse. Lorsqu'il y a un enseignement à double vitesse à la maison et à l'école,
ça va perturber
l'enfant. Est dévasté.
Voilà. Julien de Caminal dit que sa fille ne comprend pas bien les maths. Et malgré il a pris un répétiteur pour elle à la maison, ça va. Mais quand l'enfant va à l'école, il a toujours zéro. Et il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire maintenant.
Alors, mon frère Julien, je vais demander qu'il puisse rétablir le pont entre l'école et la famille. C'est-à-dire que voilà. Au niveau de l'école, vous savez qu'il y a des parents qui arrivent au début de l'année, ils inscrivent leurs enfants et disparaissent. Et ils ne vont se retrouver que vers la fin de l'année. Parfois, ce ne sont même pas des parents, mais ce sont des petits frères, des grands frères qu'on envoie chercher les résultats. Donc, pour ma fille là, qui a des problèmes, il revient à mon frère Julien de voir, par exemple, par rapport à l'école, comment la structure fonctionne. Peut-être envoyer le chef d'établissement, envoyer le conseil pédagogique, les directeurs des études. Ensemble, on peut voir. Parce que ne vous en faites pas. Il y a aussi des professeurs qui sont là, d'un côté des donneurs de points. Partout où ils passent dans chaque classe, ce sont des élèves qui réussissent. Mais il y a d'autres aussi qui sont des casseurs. Partout où ils passent, ce sont des zéros. Des zéros. Quand ils le font comme ça, c'est pour qu'il se fasse très important et se mettre maintenant à voir les autres venir vers lui. Donc, ce sont des problèmes que nous devons résoudre entre la famille et l'école en essayant d'établir le pont.
Donc, Julien doit entrer en contact
avec
le conseil scolaire pour savoir, pour trouver qu'est-ce qui ne va pas.
Voilà. Ça, c'est vraiment capital.
C'est vraiment capital. Merci, Odon Moulanda, psychologue. On va terminer par ici. Je ne sais pas, vous avez autre chose à dire?
Non, je voulais faire rapidement parler des différentes conséquences.
Quelles conséquences
au niveau économique, donc pour les parents, il faudra prévoir un budget supplémentaire.
Bien sûr.
Afin de se compter à l'école.
Mmh.
Sur le plan pédagogique, j'ai parlé d'un enseignement à double vitesse. Et il faudra voir qu'est-ce qu'il faut faire. Sur le plan affectif, mon frère Julien a parlé de sa fille. Vous savez qu'il y a beaucoup d'habits aussi qui peuvent se mettre ensemble. Lorsque vous mettez la fille avec un professeur du sexe opposé.
Il y a problème de moralité aussi.
Oui, au fur et à mesure qu'on est ensemble,
oui.
Il se crée aussi ce transfert affectif.
Oui.
Et on n'est pas étonné de voir que tel professeur peut abuser, par exemple, de sa fille.
Mmh.
Et ça, ce sont des problèmes que nous devons voir. Donc, lorsque nous amorçons ce processus-là de préceptorat, il faudra mettre des garde-fous à tous les niveaux.
À tous les niveaux.
Le respect du programme, le respect de la personne et le contact entre ce que le précepteur fait pendant qu'il enseigne, le parent doit suivre aussi. Il faut vous donner le temps de pouvoir le suivre et voir si ce qu'il est en train de faire concorde réellement avec ce que l'enfant a besoin par rapport au manque.
Tu peux raconter autre chose à la
fille. Oui, par rapport au manque qu'il a pu obtenir au niveau de l'école. Donc voilà un peu les temps que déforme les grands lits de ce que nous pourrions dire.
Merci, Odon Moulanda, psychologue. Et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Oh,